Place Info.
Bonsoir à la une. Les accusations de François de Rugy, c'était sur France Info ce matin. Cazeneuve, hypothétique sauveur d'une gauche fracturée. Patrick Balkany, agressé à Levallois. La dissidence, Villani, et le risque de contagion au sein de La République En Marche. C'est dans Les Informés avec Absatoussi, entrepreneuse, fondatrice d'Absatoussi TV, avec Chloé Morin, politologue, directrice de projets internationaux chez Ipsos, avec Étienne Girard, journaliste politique à Marianne, et Thomas Clay, professeur de droit à la Sorbonne, Université Paris 1. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Mais tout d'abord, l'émotion après l'agression au couteau d'une cantinière par un jeune homme de 17 ans. C'était tôt ce matin dans une école élémentaire des quartiers sud de Marseille. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, est venu avec le secrétaire de l'Intérieur aux côtés de Laurent Nunez apporter son soutien au personnel de l'établissement.
Ce que nous voulons, c'est leur dire notre soutien aujourd'hui. Mais au-delà de notre soutien aujourd'hui, c'est aussi le soutien au cours des semaines et des mois qui viennent. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des agressions de ce type, ce qui est important, c'est de montrer eh bien, que tout simplement la République est sereine, qu'elle est forte, et qu'à la fin, c'est l'école de la République qui triomphe et pas la violence.
Voilà donc cette agression dans une école maternelle à Marseille, suffisamment grave, Absatoussi, pour que le ministre se déplace en personne.
Oui, alors moi je suis maman en plus et ce matin j'accompagnais ma petite fille et je me dis que ça aurait pu arriver absolument partout. On n'est plus en sécurité nulle part et si même nos enfants en bas âge comme ça sont confrontés à des actes d'une extrême violence comme celui-ci, c'est relativement inquiétant. Donc je pense que le geste, ouais. Quoi, le déplacement de Monsieur Blanquer est important. Maintenant derrière c'est comment on sécurise les choses, on sait que ça peut arriver.
Qu'est-ce que vous dites, il faut mettre de la sécurité partout, ça vous inquiète?
Moi je dis pas ça parce que je vois que déjà sur des sites où il y a de la sécurité, elle peut pas être optimale et à 100% partout. Je sais pas si on a une solution à ça, parce que ce sont des actes isolés. Ça peut surgir absolument n'importe où, dans un supermarché, dans la rue, dans une école et absolument partout. En tant que
mère de famille, réponse, il n'y a pas vraiment de réponse.
Il n'y a pas de réponse, oui. En tout cas, il n'y en a pas d'efficace et on pourra toujours reprocher que ce ne soit pas efficace, parce que malheureusement, on ne peut pas savoir où est-ce qu'ils vont agir.
Thomas Clay, cette école de la République, la nomme Jean-Michel Blanquer, elle mérite effectivement de plus en plus mesures de sécurité, des portiques, on imagine même des policiers en uniforme. C'est un sujet qui revient régulièrement.
C'est vrai qu'on trouve des portiques maintenant dans beaucoup de lieux publics, évidemment dans les aéroports, mais pas seulement, dans certains magasins. Alors pourquoi ne pas en mettre dans les écoles? Et puis, m'autoriserait à le dire, pourquoi pas aussi dans les universités, puisque ce sont des lieux ouverts et qui sont parfois aussi, vulnérables.
Vous qui enseignez à la Sorbonne, vous y pensez?
Bien sûr qu'on y pense. On affronte des amphithéâtres de 800 personnes. On peut très bien avoir effectivement un déséquilibré qui s'en prend à l'enseignant pour une raison ou pour une autre, ou au personnel de l'établissement. Mais on aura là une protection bien supérieure à un portique. Ce sont les autres étudiants qui forcément s'élèveront pour protéger leur enseignant, j'en doute pas. Voilà. Quant au ministre, c'est bien normal qu'il se déplace. La politique, c'est du symbole. Et il fait de la politique et c'est indispensable.
Étienne Girard, l'agresseur n'était pas connu pour des faits de radicalisme. Laurent Nunez a précisé que l'enquête était en cours, voilà pour le factuel si je puis dire, et a rappelé aussi que 23 000 policiers, j'ai découvert ce chiffre au passage, et gendarmes sont mobilisés aux abords des établissements scolaires. Il y a quelque chose de l'ordre déjà du dispositif de sécurité qui est en place.
Oui, bien sûr, mais on le voit bien, 23 000 policiers aux abords des établissements scolaires, ça ne suffit pas à garantir, en toutes circonstances, la sécurité de ces établissements si un fou furieux s'introduit à l'intérieur. Donc la question des portiques, c'est une bonne question. Effectivement, il y a des établissements dans lesquels on peut rentrer comme dans un moulin ou presque, et on pourrait se poser la question d'une plus grande sécurisation. La question de la police, à mon sens, est plus délicate parce qu'elle est beaucoup plus symbolique. L'école, ça reste un lieu d'éducation. Si on plaçait en toutes circonstances un policier devant un établissement, on donnerait évidemment le symbole qu'on est aussi dans un lieu de répression. Alors, les policiers doivent pouvoir intervenir s'il y a un délit au sein d'un établissement, ça paraît évident, mais en positionner un de toute façon devant l'établissement par défaut, il me semble qu'on serait dans un symbole.
Vous pensez qu'on bascule dans un autre
délicat,
monde.
Délicat, hein, et d'ailleurs, le personnel éducatif est contre.
Ouais. Alors, je précise à l'instant que le procureur de la République de Marseille vient d'annoncer que l'agresseur en question a été placé en établissement hospitalier psychiatrique. Chloé Morin, qu'est-ce qui se passe à l'étranger? On part souvent, on pense aux États-Unis, hein, où les affaires de tueries de masse, y compris dans les établissements scolaires, dans les universités, ont tendance à se multiplier. Il était question de plus de 250, c'est un chiffre récent. Est-ce qu'on va en venir là un jour chez nous en France?
Oui, alors ils ont une culture particulière, un rapport aux armes aussi qui n'est pas du tout le nôtre. Donc faut espérer qu'on n'arrive jamais là. La possession d'armes aux États-Unis, c'est quand même quelque chose qui fait partie de l'imaginaire collectif depuis toujours.
Bon, c'est pas la France pour l'instant. Hein.
Donc c'est pas la France pour l'instant. S'agissant des portiques, la question, c'est pas la première fois qu'elle est posée. Elle avait été posée notamment dans le débat public lors des précédentes élections régionales. Et Laurent Wauquiez, par exemple, avait promis de mettre des portiques à l'entrée de tous les lycées, donc des portiques étant des détecteurs de métaux. Or, il a dû revenir dessus en partie, puisqu'il a mis en place des tourniquets pour identifier les personnes qui rentrent, mais pas de détecteurs de métaux. Donc ça veut bien dire qu'à l'épreuve des faits, c'est un sujet qui s'est déjà posé.
C'est un sujet récurrent, oui.
Et qui est difficile à résoudre.
Oui, qui est difficile à résoudre, et je terminerai là-dessus, parce qu'il y a aussi le problème de la rentrée des classes le matin, du temps qu'il faut pour pénétrer dans un établissement scolaire. Il y a toute une sorte de raison objective pour peut-être ne pas en venir là. En tous les cas, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce drame survenu à Marseille. 20h10 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Augustin Arrivé.
Des difficultés pour plusieurs milliers de clients d'Aigle Azur veulent annuler jusqu'à nouvel ordre l'entreprise en redressement judiciaire. La concurrence a commencé ce matin à proposer des billets à tarifs préférentiels pour permettre un retour en France des passagers bloqués. Philippe Martinez, pas convaincu par son rendez-vous avec Édouard Philippe sur la réforme des retraites. Le secrétaire général de la CGT estime sur France Info qu'on propose aux syndicats une réforme des premiers de cordée. Allusion à la formule utilisée par Emmanuel Macron pour décrire un temps sa politique économique. L'inquiétude du ministère de l'Agriculture. Pour la première fois en France, des oliviers ont été contaminés par une bactérie mortelle, la Xylella fastidiosa. Aucun traitement connu. Deux arbres atteints dans les Alpes-Maritimes à Antibes et Menton. Ils seront arrachés dans les prochains jours pour éviter une propagation. 6 représentants de pays amazoniens réunis depuis cet après-midi en Colombie. Il s'agit de progresser dans la protection de la forêt, mais aussi dans son exploitation durable. Le président colombien répète que la survie de la planète est en jeu. Le Brésil participe à cette réunion par la présence du ministre brésilien des Affaires étrangères. La diplomatie française n'a toujours pas réagi à la mort de Robert Mugabe. L'ancien dictateur est élevé ce soir au rang de héros national au Zimbabwe par son successeur Emmerson Mnangagwa, Robert Mugabe à la tête du pays entre 1980 et 2017. Et puis le tennis avec Rafael Nadal qui va tenter de décrocher cette nuit une place pour la finale de l'US Open. Il affronte dans le dernier carré l'Italien Matteo Berrettini.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Y a-t-il eu complot? François de Rugy, invité de France Info ce matin, étonnante interview au passage, est revenu sur les révélations de Mediapart qui l'ont poussé, vous le savez, hein, sa démission du gouvernement, c'était le 16 juillet dernier. Dans son collimateur, le site d'information d'Edoui Plenel, qui a révélé notamment les dîners organisés à l'hôtel de la C, mais également son ancienne formation Europe Écologie Les Verts.
Mediapart fonctionne à la fois avec de la mauvaise foi, une présentation des choses qui est de mauvaise foi, de la malhonnêteté intellectuelle et des mensonges.
Mais j'ai bien identifié depuis également une vengeance politique, ça c'est très clair.
De la part de qui la vengeance politique ?
De mon ancien parti. Ça ne fait aucun doute.
Europe Écologie Les Verts ?
Ça ne fait aucun doute.
Thomas Clay, vous aviez eu régulièrement l'occasion de commenter cette affaire Rugy, François de Rugy, lors de précédentes éditions, quand ça s'est produit désinformé. Vous avez écouté l'interview, elle vous a surpris ?
Trois choses en ce qui concerne ce qu'a dit François de Rugy ce matin. Premièrement, il faut rappeler, il n'y a pas d'enquête judiciaire, il n'y a pas d'information judiciaire, il n'y a pas d'enquête préliminaire, ce n'est pas une affaire judiciaire. C'est une affaire, effectivement, entre un média et un ministre, un ancien ministre, uniquement. Deuxièmement, incontestablement, Mediapart occupe une place importante sur la scène médiatique et politique. Ils ont fait des révélations absolument déterminantes. Ils ont mené des enquêtes remarquables, je pense en particulier à l'affaire Tapie. Ils sont d'ailleurs en ce moment...
Et l'affaire Cahuzac.
Ils sont d'ailleurs en ce moment dans un autre mano à mano avec Nicolas Sarkozy sur l'affaire du financement, prétendument financement libyen de sa campagne. Et là, d'ailleurs, c'est intéressant puisqu'il y a deux médias qui s'affrontent. Mediapart d'un côté et le journal du dimanche de l'autre qui relaie la défense de Nicolas Sarkozy. Mais troisièmement, les chasses à l'homme, c'est déplaisant. Et d'ailleurs, ça va aussi pour Jérôme Cahuzac. J'ai trouvé pour ma part que ce qui s'est passé cet été était une chasse à l'homme excessive à l'égard de François de Rugy. Et je pense, et pardonnez-moi de raisonner en juriste, et de faire même, comment dire, un pronostic. Vous savez qu'il y a une action judiciaire qui a été intentée par François de Rugy, par le biais de son avocat, le bâtonnier Pierre-Olivier Sûr, contre Mediapart en diffamation. Eh bien, je pense, et je le dis en juriste, je pense que cette action diffamation va prospérer, c'est-à-dire qu'ils vont triompher. Parce qu'il y a un moment dans ce cheminement d'articles où Mediapart est allé trop loin, et notamment quand ils ont déclaré que François de Rugy occupait un logement social, ce qu'ils savaient être inexact.
Ça, c'est une ligne jaune qui a été, selon vous,
franchie. Ils sont allés là trop loin parce qu'ils ont publié une information dont ils savaient qu'elle était inexacte.
Absatoussi, quand vous avez, comme tout le grand public, j'imagine, découvert les révélations de Mediapart, ces photos, quel a été votre sentiment à ce moment-là? Et qu'est-ce que vous dites en entendant la défense ce matin de François de Rugy?
Je pense que sa défense est légitime. Je pense qu'effectivement, je partage tout à fait ce qui vient d'être
Thomas
dit.
Thomas Clédy, c'est allé trop loin.
Oui, mais moi je suis assez d'accord. On assiste à ce tribunal médiatique des médias, des réseaux sociaux où on cloue au pilori n'importe qui et on peut se permettre de le lyncher sur des semaines et des semaines. Moi, ce que je dis, c'est que depuis toujours, les gouvernements, que ce soit Pompidou, Giscard, Mitterrand, Hollande, Sarkozy, ont toujours reçu, les ministres ont toujours reçu en grande pompe. C'est pas la première fois qu'il y a des grosses crevettes et des homards à des dîners. Donc je trouve que le procès qui lui est fait, il est quand même un peu limite. Est-ce que c'est ce qui intéresse les Français? Ce qui intéresse les Français, c'est comment ils payent leur facture à la fin du mois. C'est leurs impôts, c'est comment ils nourrissent leurs enfants, c'est leur retraite. Donc que la scène médiatique soit occupée aussi longtemps et de façon aussi excessive.
Vous n'avez pas vu une forme de symbolique derrière C'est ce qui a accroché le public, finalement.
Quelle symbolique? La symbolique de dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus sur ce genre de choses que sur les actions qui sont portées par ces personnes qui représentent aujourd'hui le peuple et qui sont censées mener des missions qui servent le peuple? Ou est-ce que honnêtement, ce qu'il a dans son assiette m'interpelle? Pas du tout. Donc moi, je pense qu'à un moment, c'est déplaisant. Et puis, je pense que c'est ce qui vient d'être dit. Il n'y a pas d'enquête juridique qui ont prouvé une telle quelconque culpabilité.
Il n'y a pas d'enquête judiciaire.
Ils n'ont pas été ouvertes.
Non, le seul dossier juridique, c'est aujourd'hui Monsieur de Rugy attaque en diffamation. Il y aura un retour, je crois que c'est correctionnel, au mois d'octobre. Voilà, c'est la seule action juridique.
Etienne Girard, vous n'êtes pas d'accord forcément avec Absatoussi, je vous ai vu hocher la tête.
Non, je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'un média, c'est deux choses, c'est des faits et c'est une ligne éditoriale. Alors, je vais prendre les homards, parce que c'est la seule chose finalement qui restera cette affaire-là. Oui, ce qui restera, c'est cette photo des homards et le fait que François de Rugy et son épouse recevaient, dans un cadre au rapport assez lâche avec sa fonction, des invités à l'hôtel de la
Fête. On ne va pas refaire l'affaire.
Non, on ne refait pas.
On va aller vite là-dessus.
On ne refait pas l'affaire. Les faits, ils sont avérés, ils n'ont pas été contestés. Ce qui est contesté, finalement, c'est la ligne éditoriale de Mediapart, c'est le commentaire de Mediapart qui interroge l'éthique, la déontologie d'un tel comportement. On peut ne pas être d'accord avec Mediapart et dire, comme Absatoussi vient de le dire, ça n'intéresse pas les Français, les politiques ont toujours fait ça, mais là on est dans la discussion.
Non, mais il y a la méthode aussi. La méthode qui poursuivie, il y a le feuillettonnage, il y a le harcèlement, il y a le goutte à goutte quotidien qui est destiné à abattre un homme malgré tout.
Est-ce que c'est destiné à abattre un homme? On met à la disposition du public des informations. Si ces informations ne sont pas convaincantes, elles ne convaincront pas. Et donc, il n'y a aucun sujet et il n'y a pas matière à, par exemple, démissionner. Si François de Rugy, à un moment, démissionne, c'est parce qu'il a l'impression que cette affaire suscite un émoi auprès du public et qu'il considère que ça l'empêche
une machine infernale comme le souligne
le regret d'ailleurs aujourd'hui. Le regret d'avoir démissionné.
L'avis de Chloé Morin là-dessus, est-ce que c'est une émotion nationale ou c'est une machine infernale médiatique qui est en marche?
Alors, c'est vrai qu'il y a eu une indignation, une émotion de la part d'une grande partie de la population qui est légitime parce que la politique, vous l'avez dit à l'instant, c'est toujours été des symboles. Et donc, il y a une symbolique dans ce qui lui a été reproché qui a indigné une partie des Français. Pour autant, la méthode, effectivement, interroge parce que moi, c'est à quelques semaines après cette affaire, finalement, on n'en parlait plus et on faisait comme si ça n'avait aucun impact sur la démocratie et sur le liant, ouais. Le carburant de la démocratie qui est la confiance. Or, on ne peut pas faire comme si chacune de ces affaires, parce qu'il y en a eu effectivement un grand nombre, chacune de ces affaires fragilise toujours plus la confiance que les citoyens ont dans les institutions, dans les médias éventuellement, dans les responsables publics. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que le chemin inverse, on ne sait pas le faire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment réinventer de la confiance. Ouais. On ne sait pas comment retisser les liens entre les médias et les citoyens. Et dans nos indicateurs de confiance, nous, ce qu'on mesure, c'est une défiance toujours plus grande et jamais et là, le chemin inverse selon vous. Qui est fait.
Ouais, encore un mot là-dessus, Thomas Clay, il parle de vengeance personnelle, au fond de règlement de compte chez les Verts. Un livre qui arrive, c'est pas fini, c'est pas terminé cette histoire.
Non, mais c'est intéressant. Sa défense va passer effectivement de la symbolique à la politique, en disant que derrière il y a un complot, même s'il se défend de la théorie du complot tout au long de cette interview, un complot qui serait organisé par Europe Écologie Les Verts. Bon, sympa hein, l'ambiance chez Les Verts, hein, c'est systématique, c'est-à-dire dès qu'il y en a un qui sort, il finit par être abattu. Ça me fait penser d'ailleurs qu'aux dernières, à chaque fois qu'il y en a un qui gagne les élections, il est abattu par le reste de ses co-religionnaires. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, ce qui se passe, et on va peut-être en parler tout à l'heure. À Paris, avec le soutien du bout des lèvres de Yannick Jadot, candidat Béliard à Paris, ça montre bien que les choses sont pas très nettes chez les Verts. Mais de là à ce qu'il y ait un complot, quand on porte des accusations, il faut quand même qu'elles soient étayées.
Oui, nous attendons avec impatience la sortie de cet ouvrage à venir, hein, de François de Rugy. 20h20 sur France Info. Rappel de l'info, Augustin Arrivé.
11 feux de végétation ce soir en cours dans l'Hérault. Le décompte des pompiers, un département confronté à la fois à la sécheresse et à un renforcement du vent. D'autres incendies ailleurs, notamment dans le Grand Est, avec un trafic TER très perturbé entre Strasbourg et Sarrebourg en Moselle. Une hospitalisation décidée ce soir à Marseille pour l'agresseur d'une employée de cantine scolaire. Les experts psychiatres ont estimé que l'état de cet adolescent de 17 ans n'était pas compatible avec une garde à vue. Il est entré ce matin avec une arme blanche dans une école de la ville. Employé blessé au thorax, une autre a été frappée. Punir l'homophobie dans les stades de football, les mesures divisent. On arrête trop de matchs, dixit Noël Le Graët. Déclaration aujourd'hui du président de la Fédération Française de Football. Johan Lemaire de l'association Foot Ensemble se dit sur France Info écœuré et découragé par cette prise de position. Il rappelle le devoir d'exemplarité face aux jeunes licenciés et il dénonce une volonté de cacher ces discriminations. À Londres, la Chambre des Lords approuve la loi qui obligera Boris Johnson à demander un nouveau report du Brexit. Le Premier ministre se retrouvera devant les parlementaires lundi pour leur demander de convoquer des législatives anticipées. Les élus du Labour et du Parti national écossais ont prévu aujourd'hui de s'y opposer. Et puis Woody Allen présente ce soir son nouveau film en ouverture du festival de Deauville, festival du cinéma américain. Ça s'appelle Un jour de pluie à New York avec Timothée Chalamet et Elle Fanning. Sortie annulée aux États-Unis, mais ce sera dans les salles françaises le 18 septembre.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Sera-t-il le sauveur de la gauche? Bernard Cazeneuve a reçu un accueil papal hier à Avignon aux journées parlementaires du Parti Socialiste. Le dernier Premier ministre de François Hollande, ancien maire de Cherbourg, qui s'est aventuré sur un terrain assez inattendu de sa part.
Nous savons parfaitement que le réchauffement climatique, la question environnementale, se pose avec d'autant plus d'acuité que ceux qui s'y trouvent confrontés sont plus pauvres, que les sécheresses, les ouragans touchent les populations les plus vulnérables.
Étienne Girard, Bernard Cazeneuve, écolo, tout le monde s'y met.
Eh oui, d'ailleurs, Bernard Cazeneuve qui s'y met, ça n'a rien d'anecdotique, puisque dans les années 90-2000, il faisait partie de la branche la plus productiviste du Parti Socialiste, la plus favorable au nucléaire. Donc c'est bien le signe qu'aujourd'hui, si on veut exister...
Il l'est toujours, hein. Il est toujours favorable au nucléaire.
Oui, oui, donc il navigue entre ces deux, ces deux idées-là. C'est bien le signe qu'on est forcément aujourd'hui écolo. Bon, il aura deux problèmes, oui. Bernard Cazeneuve, s'il veut être le sauveur de la gauche. Le premier, en effet, c'est qu'il n'est pas identifié sur les questions écologiques qui deviennent de plus en plus importantes dans le débat public. Mais l'autre problème, c'est qu'il est identifié surtout... à François Hollande.
Qui était dans son dos, hein.
Oui, oui. Bernard Cazeneuve, dans l'imaginaire des gens, c'est Hollande. Et c'est le quinquennat Hollande, et c'est cette gauche qui a échoué à changer la vie, qui a échoué à répondre à la question sociale, à lutter contre la finance, à réduire les inégalités, et donc qui, pour une partie de la population n'est plus crédible.
Il n'est pas crédible, donc, pour vous, Bernard Cazeneuve?
Pour moi, il l'est. Il est même le sauveur du PS. Un parallèle intéressant, c'est entre lui et Nicolas Sarkozy. Tous les deux ont été anciens avocats, tous les deux anciens ministres de l'Intérieur. Il est futur chef de parti, c'est assez évident. Il est prêt pourquoi? Pour la présidentielle, à mon sens. Je trouve qu'en plus, il a quelque chose, c'est qu'il a une excellente réputation, il inspire la confiance, il inspire l'expérience. C'est pour moi un candidat assez redoutable face à Macron,
notamment. Ah, vous dites ça, vous.
Oui, ouais. 2022, c'est demain, on se rend pas compte, mais c'est franchement
demain.
Donc vous
y croyez?
Moi, j'y crois énormément, et je pense qu'il met tout le monde d'accord. Et puis, c'est un sacré défi de vouloir reconstruire ce parti agonisant qu'est le PS. On a besoin d'un...
Allez,
d'un
une militante pro-Cazeneuve.
Je suis pas.
Thomas Clé, vous aviez été, faut-il le rappeler, le président de la haute autorité de la primaire socialiste.
Ça vous fait sourire. Et Bernard Cazeneuve n'était pas candidat, il était premier ministre.
Alors, c'est crédible ou pas? Vous qui connaissez bien la famille socialiste. Alors,
écoutez, j'ai envie de dire, pour continuer le dialogue avec Étienne Girard, qui disait à l'instant qu'il a deux problèmes, que moi je dirais il a deux atouts. Premier atout, il est le seul. Il n'y a personne d'autre au Parti Socialiste qui peut occuper aujourd'hui le poste de prétendant à l'élection présidentielle de 2022.
Même pas François Hollande
certainement pas François Hollande.
Peut-être que Cazeneuve se décourage, non?
Dont je rappelle qu'il était premier secrétaire en 1997. Donc si on peut avoir en 2022 quelqu'un d'autre qui était premier secrétaire 25 ans avant, ce serait quand même bien. Deuxièmement, il a tous les atouts, Bernard Cazeneuve. Il a été premier ministre, tout le monde lui reconnaît ses qualités d'homme d'État. Et puis, ce que j'aime bien dans son parcours, c'est qu'il a coché les différentes cases des différents ministères. Il a été au budget, donc un ministère économique, aux affaires européennes, donc un ministère international, et puis à l'intérieur. Et c'est l'homme qui a tenu la France pendant les attentats. Donc il a beaucoup d'atouts. Ça sera difficile quand même, parce que le Parti Socialiste aime bien là aussi couper les têtes de ceux qui sortent. Mais j'observe, pour continuer, qu'il se prépare sur le terrain effectivement de l'écologie, qu'il a opéré sa mue, qu'il publie un article dans le débat dans les jours qui viennent. Il y a les bonnes feuilles dans le Monde aujourd'hui d'ailleurs.
C'est bon, c'est pas bon.
Il défend la croissance ciblée, le nouveau républicanisme. Voilà, c'est le greenwashing effectivement qui touche aussi la République de Bernard Cazeneuve.
Chloé Morin, c'est le chaînon manquant aujourd'hui, Monsieur Bernard Cazeneuve.
Non, je crois effectivement que il est surtout servi par l'absence de concurrence manifeste à gauche.
Un champion par défaut, donc.
Oui, pour l'instant, oui. C'est-à-dire qu'il va devoir montrer le contenu qui donne à ce qu'est la gauche, ou la social-démocratie de l'avenir. Mais c'est, en tout cas, on peut pas lui reprocher de tenter de donner un avenir à sa famille politique. La question que je me pose, moi, c'est l'air du temps, il est plutôt à la rupture, à la radicalité, au dégagisme,
vous
au renouveau.
Trop sage.
La question, c'est effectivement, est-ce que son équation personnelle rencontrera les aspirations d'une partie de l'électorat le moment venu? Je suis pas absolument certaine que l'électorat de gauche soit en demande de loyauté.
Dernier mot là-dessus.
On verra bien, parce qu'effectivement, c'est l'ère du temps, mais l'ère du temps est irréversible. et dans une hypothèse où on cherche un profil anti-Macron, il est le profil anti-Macron, c'est une certitude.
Allez, nous allons marquer une pause dans ces informés avec la météo, le rappel de l'info. Dans un instant, nous évoquerons l'agression de Patrick Balkany à Levallois et nous serons en ligne avec son épouse Isabelle Balkany, 20h28 sur France Info. À tout de suite pour la suite des informés.
Nouvelle scène Radio France, lundi 9 septembre à 20h. Venez assister au grand concert de rentrée à la Maison de la Radio à Paris avec les nouveaux talents sélectionnés par les antennes de Radio France. Julien Granel, Maël, Mohamed Ibert, Kikessa, Andrea Motis et Molécule. Pop, hip-hop, électro, classique, toutes les musiques seront à l'affiche. Et même des surprises. Entrée libre, lundi 9 septembre à 20h. Inscrivez-vous vite sur maisondelaradio.fr.
L'info sur vos assistants vocaux, c'est France Info. Demandez à votre enceinte connectée.
Je veux écouter les dernières infos.
La diplomatie à l'épreuve des réseaux sociaux.
France Info.
Et tout est plus clair. France Info à Angers, 105.5.
Et partout dans le monde, sur l'appli mobile France Info.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
Et les prévisions d'Élodie Calac pour Météo France.
Un week-end mitigé, pas mal de nuages demain entre les Charentes, le centre, l'Île-de-France et les frontières du Nord. On aura droit à quelques pluies ou quelques averses. Plus d'éclaircies malgré tout l'après-midi. Sur les Alpes et le nord de la Corse, là aussi, il faudra composer avec quelques averses l'après-midi. Pour avoir de belles éclaircies, direction le nord-ouest. Ce sera le cas aussi des Pyrénées à la vallée du Rhône et en Méditerranée, où là, le vent sera encore marqué, 70 km/h pour Mistral et Tramontane. Le matin, souvent 7 à 13 degrés. L'après-midi, 18 degrés à Deauville, Strasbourg, 20 à Paris, 21 à Lyon, 24 à Agen, 29 pour Montpellier et Toulon. Dimanche, 16 à 21 degrés au nord, 19 à 26 au sud. De belles éclaircies, mais toujours un risque d'averse sur les régions de l'Est et du vent autour de la Méditerranée.
Heures et 30 minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Elle a décimé 1 million d'oliviers en Italie depuis 2013. La bactérie dite de la lèpre des oliviers vient d'être repérée sur 2 arbres, à Menton et Antibes, en France donc. Tous les végétaux pouvant être contaminés seront arrachés dans un rayon de 5 km, décide ce soir le ministère de l'Agriculture. La bactérie est véhiculée par des insectes. Michel Dessus préside la Chambre d'Agriculture des Alpes-Maritimes. Selon lui, il est urgent d'attendre.
Pas d'affolement par rapport à cette déclaration. Avant de faire quoi que ce soit, j'estime qu'il faut vérifier, si vous voulez, les analyses pour revérifier si c'est vraiment la Xylella fastidiosa poca. Et après, la profession l'éclaire aujourd'hui. Avant de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire arrachage ou couper l'arbre, je m'y opposerai clairement. Il y a d'autres moyens, si vous voulez, aujourd'hui, peut-être de moyens de protection, de surveillance, de piégeage par rapport à tout ce qui est insectes piqueurs-suceurs, parce qu'il faut quand même savoir que cette bactérie, elle est véhiculée par des piqueurs-suceurs d'un arbre à un autre. Donc j'estime qu'on peut mettre des filets, surveiller l'arbre, voir un petit peu, avant de prendre des décisions drastiques et difficiles pour le monde agricole.
La bactérie a déjà été repérée sur le territoire français, mais jamais jusqu'à présent sur des oliviers. L'adolescent de 17 ans, hospitalisé en psychiatrie ce soir à Marseille, tôt ce matin, il avait blessé 2 femmes de service dans une école des quartiers sud. L'une a reçu des coups de poing, l'autre a été blessée à l'arme blanche. Leurs jours ne sont pas en danger, le ministre de l'Éducation s'est rendu sur place. Des dizaines de milliers d'élèves de seconde et de première n'ont toujours pas reçu leur manuel de maths, d'histoire géo et d'anglais. En cause, la réforme du bac qui s'applique cette année dans ces deux classes. Les éditeurs ne sont pas tous prêts. Le syndicat enseignant SNES-FSU ironise aujourd'hui sur France Info sur la quantité astronomique de photocopies nécessaires pour faire cours actuellement dans un contexte où l'environnement est devenu une priorité politique. Air France annonce 10 vols supplémentaires samedi, dimanche et lundi à destination et en provenance d'Alger. Il s'agit de pallier l'absence soudaine des avions d'Aigle Azur. La compagnie aérienne est en redressement judiciaire et ce soir, ses avions sont cloués au sol. Selon les syndicats, plus de 10 000 passagers sont en rade. À noter qu'Air France est intéressée par la reprise d'Aigle Azur. Un 3e décès lié à la cigarette électronique signalé ce soir aux États-Unis dans l'état de l'Indiana, au nord du pays. Des centaines d'adeptes du vapotage souffrent de graves maladies pulmonaires allant jusqu'à être hospitalisés ou placés en coma artificiel. Les les autorités américaines pointent du doigt des recharges au cannabis vendu au marché noir, mais aussi un additif contenant de la vitamine E. L'enquête sanitaire est en cours. Et puis le cinéma, le festival américain de Deauville, il a commencé ce soir par un hommage à l'acteur Pierce Brosnan, qui a endossé 4 fois le costume et les gadgets de James Bond. Cette année, le festival est présidé par Catherine Deneuve. Palmarès attendu le samedi 14 septembre. Le tennis, l'US Open à New York, demi-finale homme à partir de 22h, heure française, à suivre en direct sur France Info. 20h33, Jean-François Aquili pour les informer.
20h, 21h, France Info, les informer. Jean-François Aquili.
La deuxième partie avec Absatoussi, entrepreneuse fondatrice d'Absatoussi TV, avec Chloé Morin, politologue, directrice de projets internationaux chez Ipsos, Étienne Girard, journaliste politique à Marianne, et Thomas Clé, professeur de droit à la Sorbonne Université Paris 1. Patrick Balkany, le maire de Levallois-Perret, a été donc agressé, menacé hier, non loin de la mairie, par 2 hommes qui ont été interpellés. Nous allons revenir sur ces faits avec son épouse, avec vous. Bonsoir Isabelle Balkany.
Bonsoir Jean-François Aquili.
Alors dans un communiqué, votre époux, hein, Patrick Balkany, affirme donc avoir été agressé dans la rue par 2 militants de la Ligue de Défense Noire Africaine, alors qu'il se trouvait avec son directeur adjoint de cabinet. Il s'agit d'une querelle avec une commerçante. De quoi s'agit-il ?
Ah mais pas du tout, c'est une longue histoire. Il se trouve que cette dame, qui est une charmante par ailleurs, une commerçante, qui n'a pas une boulangerie contrairement à ce que l'on dit, mais une toute petite boutique de dépôt de pain, hein, a des problèmes avec ses copropriétaires depuis 15 ans. C'est-à-dire qu'elle voudrait, elle aurait voulu être boulangère, donc fabriquer du pain. Pour cela, la législation est la même pour tout le monde. Il faut des extractions, des cheminées. Et les copropriétaires, dont son propriétaire, puisqu'elle-même est le locataire, hein, de la boutique, ne le veulent pas. Alors, ça a commencé il y a... Nous l'avons reçue maintes fois, cette dame. Oui. Nos adjoints l'ont reçue. On lui a expliqué que nous ne pouvions pas intervenir sur ce qui est un différend totalement privé.
D'ordre privé, oui.
Totalement. Et il y a 6 ou 7 mois, tout à coup, le hall de l'hôtel de ville a été envahi par les militants de cette association que j'ai reçue avec la directrice, oui, de cabinet jury. Parce que nous étions, ils étaient assez nombreux, très costauds, nous étions 2 femmes, moi plutôt âgée et la jeune directrice plutôt fluette, et ils ont été d'une telle violence, d'ailleurs il y a eu un enregistrement, ils se sont adressés à la directrice de cabinet d'une manière honteuse et tellement menaçante que nous avons dû faire marche arrière, rentrer dans nos bureaux et appeler la police. Et c'est la BAC qui les a évacués. Ouais. Ensuite, ils ont campé dans la rue devant la petite boutique pendant 2 semaines. Tous les copropriétaires ont porté plainte. Des habitants de l'immeuble locataire se faisant insulter avec des menaces antisémites ont porté plainte. Et puis il y a eu les vacances. Et la boutique a été fermée pendant 8 semaines. Et hier, mon époux fait son tour de ville avec son jeune directeur de cabinet.
Et c'est là que survient cette agression.
Ils surgissent de la boutique. Alors, ils sont très, ils sont très évidemment réseaux sociaux, Twitter, vidéos, etc. Alors, ils sont tout le temps en train de filmer, d'enregistrer. Donc, ils posent une question à mon mari. Pour la énième fois, ils lui demandent s'il peut intervenir pour cette dame. Mon mari leur répond très calmement qu'il ne veut pas.
Et ça dégénère.
Et tout d'un coup, ils le suivent alors qu'il s'en va. Et tout d'un coup, il s'énerve tout seul. Et il commence à insulter mon époux et son directeur de cabinet. Donc le jeune directeur de cabinet appelle la police. Et puis là, il s'est passé encore un phénomène étonnant. C'est que 2 dames
qui se sont interposées. De leur bureau, oui.
Voilà, elles se sont interposées. Dont l'une est une de nos anciennes conseillères municipales.
Et une gardienne d'immeuble et une agente administrative de la ville, c'est
oui,
ça.
Parce que leur bureau, c'est l'office de logement social.
Si encore un mot sur ce récit, Isabelle Balkany. Patrick Balkany a été blessé dans cette affaire ?
Non, alors écoutez, il n'a pas été blessé. Si. Le problème étant qu'il a un très gros problème de dos consécutif à une tumeur qui a été enlevée il y a quelques années, qui a eu des séquelles. Il est beaucoup resté debout ces derniers temps. Je vous rappelle qu'on a eu un incendie, etc. Ouais. Il s'est retrouvé aux urgences de Pompidou sous morphine. Et aujourd'hui, à la énième ce matin, ce qui est un hasard total, il avait rendez-vous pour une énième IRM et on lui a trouvé une espèce de tumeur graisseuse qui n'a pas une bonne allure. Il fait une biopsie à Curie jeudi, voilà. Donc, je peux vous dire que ça l'a secoué.
Alors, Isabelle Belkacem, vous comprenez pourquoi ce fait divers? Parce qu'il s'agit d'un fait divers et d'un différent de voisinage qui déborde sur les élus que vous êtes de la ville de Levallois. Pourquoi cette affaire suscite l'intérêt national? Parce que nous sommes à une semaine d'un premier jugement dans les affaires qui vous concernent.
Alors, je vais vous dire, elle ne suscite pas à cause de ça. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec vous. Elle suscite à cause de plusieurs raisons. D'abord, le fait que l'on s'aperçoit soudainement que les maires et les élus locaux sont en première ligne dans leur ville et que les rapports humains ont changé. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, ma collègue chargée de la voirie, des espaces verts, etc., qui mesure 1m30 et qui doit peser 12 kilos, a demandé à un commerçant qui avait fait un dépôt sauvage devant sa boutique de l'enlever. Elle s'est fait insulter par le commerçant.
Oui.
Et voilà. Alors, il y a des rapports sociaux qui changent et qui ne changent pas favorablement. Je vous rappelle d'ailleurs que l'Assemblée, que le président de la République lui-même a demandé à l'Assemblée nationale, aux députés, de cogiter un texte sur la protection des maires.
Vous y voyez-vous un élément additionnel sur l'exposition, la surexposition aujourd'hui des élus locaux face à des phénomènes d'agression?
Voilà, j'y vois même, je dirais, le choc des mots, parce que, comme vous le savez, puisque tout a filtré, cela a filtré, mon mari est convoqué dans 15 jours par un juge d'instruction sur la plainte d'un syndicaliste fou qui a été viré de tous les syndicats il y a 10 ans, parce que parce que nous l'avons supplié de se faire protéger compte tenu des menaces qu'il recevait, et que ces deux chauffeurs n'étaient plus civils, mais des policiers municipaux.
Beaucoup d'affaires qui s'empilent,
Isabelle Belkacem. Vous voyez, la juge d'instruction, elle a eu hier soir la réponse à ces questions. Voilà, effectivement, il y a un problème pour les élus locaux, et notamment les maires, quelle que soit la taille de la ville.
Ultime question que je poserai, qui est plus personnelle, quel est votre ressenti à une semaine de ce jugement, et alors que survient cette agression, à un moment finalement très sensible pour vous?
C'est-à-dire que, vous savez, il y a un moment où... j'attends, vous savez, monsieur Akili, j'ai appris quelque chose ces derniers mois. C'est que quand on n'est pas bien, quand on fait un burn-out, quand on est mal, il ne faut pas être nombriliste. Il ne faut pas se regarder le nombril. Il faut s'occuper des autres. Alors, j'ai eu de quoi faire à Levallois, puisque, comme vous le savez, nous avons eu à 15 jours un incendie terrible, avec 207 locataires sinistrés, 49 enfants, 11 chats, 7 chiens, c'est l'Arche de Noé. Voyez-vous, et il a fallu tout gérer. Et je crois que nous l'avons fait bien, et effectivement, les locataires ont pu rentrer chez eux très très vite.
Et vous procédez, j'imagine, étape par étape, c'est ce que vous nous dites ce soir.
Et je crois, mais je l'ai dit et je le redis, les Levalloisiens, par leur confiance, leur amitié, et le fait que j'ai envie et besoin de m'occuper d'eux, m'ont quelque part sauvé la vie.
Allez, merci à vous Isabelle Belkacem pour ce récit assez complet de ce qui s'est produit à Levallois et sur ce ressenti donc de votre part, on va dire, à quelques jours d'une décision de justice qui vous concernera, vous et évidemment votre mari Patrick Belkacem. Merci à vous pour cette réaction. Pardon pour le retard, Augustin arrivé, 20h41, le rappel de l'info sur France Info avec vous.
Plusieurs milliers de clients d'Aigle Azur bloqués à l'étranger après l'annulation de tous les vols de la compagnie. Elle a été placée en redressement judiciaire. Air France affrète des allers-retours supplémentaires ce soir pour l'Algérie et le Mali. La CFDT du transport aérien fait savoir aussi qu'Air France a l'intention de monter une offre de reprise. Le syndicat s'estime intéressé à condition de préserver l'emploi. Le nombre d'appels au 3919 a plus que quintuplé. C'est le numéro que vous devez composer si vous êtes victime ou témoin de violences conjugales. C'était mardi le Grenelle sur ce sujet. La plateforme d'écoute annonce près de 2800 appels en deux jours contre moins de 500 habituellement. C'était la suite aujourd'hui des consultations syndicales à Matignon sur la réforme des retraites, avec entre autres invités le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, dubitatif sur l'intérêt de ce rendez-vous. Il explique qu'une discussion de 18 mois a déjà eu lieu, sans, selon lui, qu'aucune de ses propositions ne soit retenue. Le ministre de la Santé des Bahamas dit craindre un bilan épouvantable. Pour l'instant, 30 morts après le passage de l'ouragan Dorian en début de semaine. C'est encore très provisoire. Le phénomène se trouve en ce moment en Caroline du Nord, mais il a perdu en puissance. La mission Chandrayaan 2 est en train de tenter de poser un robot sur la Lune. Mission indienne au niveau du pôle sud de notre satellite. D'ici 21h, normalement, si ça fonctionne, l'Inde sera le 4e pays à réussir un alunissage. Le robot part notamment à la recherche de vestiges des premiers temps du système solaire.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, nous allons évoquer ce qui se produit au sein de La République En Marche avec cette candidature dissidente de Cédric Villani. Mais j'aimerais d'abord que vous me disiez quelques mots sur le ressenti de cette longue interview, ce récit complet d'Isabelle Balkany sur ces faits survenus à Levallois. Je me tourne vers vous, Absatoussi, un commentaire peut-être.
Moi, je trouve qu'on mélange tout. Voilà, Monsieur Balkany a été agressé. Évidemment, on cautionne aucune agression. Il dépose plainte. Et voilà. Et je trouve qu'il y a trop de lumière faite sur ce dossier. Et je voudrais pas qu'il y ait confusion entre ça et ce qui arrive effectivement dans 15 jours. Des gens qui sont bousculés, agressés, il y en a tous les jours, plus gravement d'ailleurs. Voilà. Donc j'aimerais juste qu'il y ait un dépôt de plainte et qu'on passe rapidement à autre chose. Et il y a des sujets bien plus intéressants et plus importants que ça dans l'actualité.
Oui, je suis tout à fait d'accord. On a moins parlé de ce tragique incendie qui a fait des dizaines de victimes à Levallois que de l'agression de son maire aujourd'hui, qui n'a pas été blessé. Voilà, alors on comprend qu'Isabelle Balkany est en campagne, ben on lui offre une tribune. C'est
vous
très
êtes
bien.
En campagne, vous ?
Ben c'est le message à la fin, là. Ce sont les Levalloisiens, pardon, qui m'ont permis de surmonter les épreuves, en particulier, surtout les épreuves judiciaires d'ailleurs, qu'elle a dû affronter. Donc elle doit sa survie aux Levalloisiens, la campagne est lancée.
Étienne Girard, vous comprenez que les médias puissent, au fond, s'intéresser à ce qui se produit à Levallois-Péril. Il y a une agression d'élus, il y a aussi des jugements qui sont attendus dans les affaires Balkany.
Bien sûr. Monsieur Balkany, c'est quelqu'un qu'on connaît et donc ça peut pas laisser indifférent ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il faut dissocier les deux affaires. D'un côté, il y a les comportements judiciaires du maire Balkany, et de l'autre côté, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que toute agression d'élus est inacceptable. Et là où j'ai trouvé le propos d'Isabelle Balkany intéressant et pertinent, c'est que c'est vrai qu'il y a une montée de la violence vis-à-vis des élus. Tous les maires le disent, et être maire, alors Levallois c'est une grande ville, mais dans les grandes villes et encore plus dans les petites villes et dans les villages, ça devient de plus en plus un fardeau. Il y a de moins en moins de candidats à ces postes-là.
Allez, nous allons traverser la capitale, le périphérique pour aller dans la capitale, mais dans l'autre sens. La machine à perdre est-elle en marche dans la capitale? Donc l'AREM, la République en marche, vous le savez, se réunit en campus des territoires, c'est ce week-end à Bordeaux. Le sujet de cette candidature dissidente de Cédric Villani à Paris sera, on le parie, dans tous les esprits. Y a-t-il un risque de contagion? Écoutez ce qu'en a dit tout à l'heure Sylvain Maillard, il est député l'AREM de Paris, porte-parole de la campagne de Benjamin Griveaux, invité du 1850 France Info. Y a-t-il un risque de contagion des dissidences?
Je ne crois pas que le cas Villani intéresse l'ensemble des marcheurs de France. Allez, je vais être très honnête avec
l'exemple,
vous.
L'exemple, Villani, Lille, Besançon, Montpellier, il y a des dissidences qui
d'abord,
arrivent.
D'abord, partir en dissidence, il faut quand même être sacrément armé parce que c'est compliqué. S'il y a des rivalités, c'est vrai que ça existe. Et heureusement, ça veut dire qu'on a des talents. Mais je crois que dans l'ensemble des villes, ça se réglera tout simplement parce que c'est avec un projet, derrière un projet, que nous pourrons nous retrouver.
Chloé Morin, pas évident de répondre à ce type de questions quand on est impliqué dans la campagne de Benjamin Griveaux. Dissidence à Lille, à Besançon, à Montpellier et ailleurs, il y a un vrai risque pour la majorité.
Alors les ambitions personnelles et les rivalités au sein même d'un parti, c'est aussi vieux que les partis politiques. Et ce que ça nous rappelle, c'est que en fait, les partis politiques ont une fonction qui est notamment de concilier les ambitions personnelles et une ambition collective. En fait, ce qui arrive à La République En Marche, c'est qu'ils sont juste en train de se rendre compte des fonctions basiques qu'un parti est obligé de remplir, la fonction de gestion des ressources humaines, de trouver des candidats. J'ai vu qu'ils en avaient investi pour l'instant un peu moins de 140 têtes de liste, je crois. Donc voilà, en fait, c'est des problèmes qu'ont connus les Républicains.
Pour vous, il n'y a rien de particulier ou d'étonnant dans ce qui se produit en ce moment dans les rangs de la majorité.
Ça n'est pas nouveau. C'est un problème parce qu'effectivement, ça peut donner des idées à pas mal d'autres candidats qui jugeraient qu'ils sont des marcheurs de la première heure et qu'ils sont plus légitimes que des nouveaux arrivants, maires sortants de droite ou de gauche qui pourraient être labellisés par La République En Marche. Ce que je dis, c'est juste que si on le remarque aujourd'hui et si on le reproche à La République En Marche, c'est parce qu'ils ont prétendu à un moment donné réinventer un peu les règles
du jeu politique et faire
des partis nouveaux.
Le risque de contagion, il est réel, on le voit. Il y a des candidatures qui sont en train de se nourrir de la candidature de Cédric Villani. Je sais que, par exemple, c'est le cas à Bordeaux, c'est le cas à Montpellier. À Montpellier, le candidat dissident Patrick Vignal nous dit même, vous avez aimé Villani, vous allez adorer Vignal. maintenant, on se réfère de cette subversion Villani. Mais là où La République En Marche a une difficulté majeure, je crois, à l'égard de Cédric Villani, c'est que dans un passé récent, et j'ai envie de faire un parallèle puisqu'on parlait tout à l'heure de François de Rugy, je voudrais quand même rappeler que François de Rugy, il n'a pas respecté le résultat de la primaire socialiste, enfin, la primaire de la gauche, et qu'a fait La République En Marche ? Elle l'a promu. D'avoir ainsi violé la parole donnée, elle l'a promu puisqu'elle en a fait un président de l'Assemblée nationale. Donc lorsque la porte-parole du gouvernement nous dit hier qu'elle ne comprend pas ce non-respect de la parole donnée, c'est finalement presque dans l'ADN d'En Marche. En Marche a promu certains
de ceux qui ne respectaient pas les cohérences dedans.
Il y a une cohérence. En tout cas, c'est au contraire, il y a une forme d'incohérence. D'un côté, on condamne et d'un autre côté, on promeut. Ceux-là même qui ne respectent pas le résultat d'une primaire.
Étienne Girard, la transgression chez La République En Marche.
Et je vais même aller plus loin que Thomas Clay. La République En Marche, l'histoire de La République En Marche, c'est l'histoire d'un dissident. Emmanuel Macron, c'était un dissident. Il a été porté au pouvoir par François Hollande. Il s'est émancipé. Il n'a pas suivi la discipline collective. Il a construit sa propre histoire.
Mais il ne s'est pas présenté à la primaire. Précisément parce qu'il ne l'aurait pas respecté.
Oui. Mais il a poursuivi son propre chemin. Ce que fait aujourd'hui Cédric Villani. Et d'ailleurs, c'est tout à fait saisissant. Cette idée que la dissidence est en quelque sorte pas tout à fait anormale, ça a été intériorisé par La République En Marche, qui n'exclut pas immédiatement Cédric Villani. Dans tout autre parti, quelqu'un qui se serait présenté à la primaire et qui se présenterait quand même à l'élection malgré sa défaite serait immédiatement exclu. Mais l'autre problème, il a été évoqué, c'est que La République En Marche s'est fondée sur l'idée de la politique autrement. Quand on veut faire de la politique autrement, on peut pas demander la discipline de parti en même temps.
Allez, on marque une pause. 20h50 sur France Info. Nouveau rappel de l'info avec vous, Augustin Arrivé.
87 départements toujours concernés par des restrictions d'eau. La sécheresse avec ses conséquences sur le travail des pompiers. Rien que dans l'Hérault, 11 feux de végétation signalés ce soir. Un autre feu a largement perturbé la circulation cet après-midi sur l'autoroute A7 autour de Montélimar dans la Drôme. En ce moment, ce sont les TER qui subissent retard et annulation entre Strasbourg et Sarrebourg dans le Grand Est. Annulation également dans le secteur aérien. La compagnie Aigle Azur en redressement judiciaire. Tous les vols sont supprimés en attendant un repreneur. Le concurrent Air France annonce ce soir ajouter des allers-retours vers l'Algérie et le Mali. Le gouvernement avait demandé un geste commercial pour prendre en charge les passagers bloqués. Et des nouvelles de l'adolescent de 17 ans qui a agressé ce matin une employée de cantine scolaire à Marseille. État psychiatrique incompatible avec la garde à vue. Il a été hospitalisé ce soir. Il est entré ce matin à l'aube dans une école de la ville. Agression à l'arme blanche de cet employé avant d'en frapper une autre. Événement gravissime d'après le maire Jean-Claude Gaudin. Une légende du rugby disparaît, le Sud-Africain Chester Williams, seul noir de l'équipe nationale championne du monde en 1995. Le mondial cette année-là était historique, puisque avant ça, les Noirs n'avaient pas le droit de faire partie des Springboks sud-africains. Chester Williams a succombé à une crise cardiaque à 49 ans. Cette nuit, l'actu sportive sera surtout tennistique avec les demi-finales messieurs de l'US Open et d'abord le russe Daniil Medvedev contre le bulgare Grigor Dimitrov. Rendez-vous vers 22h. Ensuite, ce sera l'espagnol Rafael Nadal contre l'italien Matteo Berrettini.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Jean-François Aquili.
Nous n'avons pas entendu l'avis d'Absatou Si sur cette candidature de Cédric Villani face à Benjamin Griveaux. Ce risque de contagion, c'est ce dont on parle ce soir. Trahison, vous diriez ?
Non, pas trahison. Il a ses ambitions personnelles, effectivement, et il y va. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que sur la candidature de M. Villani, j'ai entendu il n'a pas de programme. Mais quelle bonne nouvelle ! Quelle bonne nouvelle pour moi. Mais pour moi, c'est une excellente nouvelle. J'ai toujours peur des candidats qui arrivent.
Compliqué quand même, non, d'aller dans une
Alors, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Aujourd'hui, c'est effectivement
sur le logement.
Non, mais moi, là où je trouve ça intéressant, c'est que les candidats qui arrivent en disant j'ai un programme sont des gens figés. C'est-à-dire qu'ils ont tout écrit d'avance, ils arrivent, ils imposent un programme. Quand on arrive et qu'on n'a pas de programme, on est peut-être en construction. On est à l'écoute. On va échanger avec la population et construire ce programme avec les gens qui vont voter. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez intelligent en politique aujourd'hui. Aujourd'hui, on reproche aux politiques de ne pas écouter. Donc moi, je trouve que M. Villani est un candidat atypique qui a effectivement toutes ses chances. Petite parenthèse, j'adore son look. Mais en dehors de ça, oui.
Je ne sais pas si vous votez à Paris, mais apparemment, vous avez fait votre choix.
Non, mais j'aime les candidats atypiques. Oui. J'aimais aussi beaucoup M. Majoubi et les autres. Mais je dis simplement que c'est une bonne nouvelle parce que je pense que c'est quelqu'un qui, humainement, est capable d'aller écouter le terrain et de construire son programme avec ces personnes-là.
Thomas Clé, on peut aller sur une élection, à une élection, pardonnez-moi, sans programme, c'est jouable.
Non, quand je dis sans programme, je suis un peu excessive. C'est ce que vous venez de dire. Il aura un programme à terme.
Il aura un programme à terme, bien sûr.
Vous avez fait allusion à ce clip hein, où l'on voit ce bout d'interview, c'est chez Brut, oui. On voit le candidat Villani questionné sur le logement et qui est incapable de répondre. Oui. Il dit teasing, je vous dirai ça plus tard. Oui. Ça fait beaucoup de succès, beaucoup de vues sur le net.
Après, bon, mais il sait pas tout. Il est plus fort en maths, manifestement, tant mieux.
Faut-il être omniscient pour faire campagne ?
Non, mais je trouve cette campagne qui s'ouvre à Paris absolument passionnante. Et finalement, la candidature de Cédric Villani a comme vertu de rouvrir le jeu. On nous avait annoncé un duel Hidalgo-Griveaux. Tous les deux sont quand même des candidats qui n'arrivent pas à rassembler autour d'eux. Donc Cédric Villani ouvre le jeu. Il y a d'autres candidats qui sont présents. Il y a Béliard, il y a Gaspard Ganzer, il y a Pierre-Yves Bourdazel. Et bien malin, qui peut dire aujourd'hui, personne, qui sera élu dans quelques mois. On attend un sondage dans une quinzaine de jours. Ça sera intéressant, mais ce ne sera qu'un indicateur comme tous les sondages.
Étienne Girard, vous partagez ce point de vue de Thomas Clé. C'est extrêmement ouvert et il est absolument impossible aujourd'hui de faire un quelconque pronostic ici comme ailleurs. Hein.
Oui, c'est ouvert, ce sera passionnant, ce sera sans doute inédit, mais je dois reconnaître un certain trouble à voir, alors à contrario d'Absatou Si, du coup, de voir des candidats se présenter sans projet. C'est-à-dire que la personnalité, l'incarnation passe avant le projet que j'ai pour la ville. Et ça, je pense que c'est dangereux, parce que ça veut dire que on a intériorisé, on assume ensuite adapter un peu son programme à un air du temps. Et je pense que ce qui est important quand on veut être maire d'une ville, au contraire, c'est d'avoir une vision, un projet, quitte à ce que ce projet ne soit pas complètement populaire, mais on l'assume et donc on est prêt à convaincre les gens sur ce projet-là. Aujourd'hui, personne n'a de projet clair pour Paris.
Absatou Si.
Non, mais ne pas avoir de programme ne signifie pas ne pas avoir de vision. Et je suis un peu excessive, effectivement, quand je dis pas de programme. Il a probablement déjà beaucoup d'idées. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, Jean-François, c'est que vous dites que M. Villani a été confronté à cette problématique de logement. Vous préférez aujourd'hui un candidat qui vous dit « je ne sais pas, je vais y travailler, revenir vers vous avec une véritable réponse » ou quelqu'un qui vous dit tout de suite « je sais tout », qui vous baratine
logement,
comme ils savent faire en politique.
C'est une
préoccupation. Oui, il y a 10 000 euros le mètre carré,
c'est une préoccupation et un sujet suffisamment important pour qu'il ne nous raconte pas juste ce qu'on veut entendre et qu'il travaille peut-être un petit peu sur le dossier. Je ne suis pas militante pour M. Villani, je le dis, mais je dis...
Voilà. Ni pour M. Cazeneuve, d'ailleurs, au passage. Nous allons refermer ces informations. informer sur ce qu'il y a à la une de la presse et dans les médias ce soir. Je commence par vous, Chloé Morin. Je signale que sur le site de Paris Match, vous publiez une étude passionnante, une enquête Ipsos intitulée « Les Français ne sont pas plus favorables à l'immigration que les citoyens de l'Italie, de Salvini, du Royaume-Uni, de Johnson ou des États-Unis, de Trump ». Quelques mots sur cette enquête avec vous, rapidement.
Oui, alors c'est l'extrait d'une enquête plus vaste menée dans une trentaine de pays sur le populisme. Mais l'angle d'analyse, en l'occurrence, c'était de se dire aujourd'hui, les Britanniques, à nos yeux, sont incarnés par Johnson, les États-Unis par Trump, l'Italie, hier, était incarnée par Salvini, donc des figures de fermeture dont on aime bien se moquer pour se rajouter, pour faire des leçons de morale. Et on aurait tort de s'en priver. Mais c'est vrai que le point était de dire qu'il faut aller au-delà de ces incarnations qui sont caricaturales et que, en réalité, quand on regarde les opinions publiques sur les sujets de populisme ou plus précisément sur l'immigration, on se rend compte que les Français sont encore plus fermés sur la plupart des
C'est assez étonnant, je vous invite à la découvrir.
C'est
sur le site de Paris Match, enquête Ipsos. Avec vous, la une, Étienne Girard de Marianne.
On revient sur les matchs arrêtés en raison d'injures dans les stades et on s'interroge, est-il si malin d'interdire ?
Allez, vous pouvez offrir le magazine à notre ami Thomas Clé, qui est un fan de football. Merci à Psatoussi, Chloé Morin, Étienne Girard et donc vous, Thomas Clé, d'avoir participé à ces informés. Demain, vous retrouvez avec bonheur Neila Latrousse. Bonne soirée à tous et bon week-end.